RFI. Le Monde à midi.
On retrouve tout de suite notre invité. Bonjour Xavier Tittelmann.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Merci d'être avec nous. Ancien aviateur militaire, vous êtes consultant en aéronautique et en défense. On va revenir avec vous sur ces discussions, sur ces pressions pour un accord entre la Russie et l'Ukraine sous la houlette des États-Unis. Peut-être qu'on va dire un mot d'abord de cette dernière annonce venue de Moscou, puisque la Russie annonce de nouveau une trêve de 3 jours à partir du 8 mai prochain, donc au moment des célébrations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pensez que les choses pourraient se passer différemment d'il y a 10 jours, au moment du week-end de Pâques, où Moscou avait aussi décidé d'une pause dans les combats sans la respecter ?
Oui, c'est ce que j'allais dire. Finalement, systématiquement, ils ne respectent pas les combats, mais ça date déjà depuis 2014. L'accord de Minsk, dès le lendemain de la rentrée en application du cessez-le-feu, ils ont tendu une embuscade pour les Ukrainiens qui étaient en train de se replier conformément aux accords. Donc il n'y a jamais eu le moindre cessez-le-feu qui a été respecté par les Russes, mais les Ukrainiens le demandent, les Ukrainiens l'ont appliqué, celui qu'ils avaient fait la dernière fois, et en fait, c'était un piège contre eux.
Et là, selon vous, ça sera pareil ?
Il y a peu de chances que la Russie respecte sa parole parce qu'on est habitué à ce qu'elle viole ses propos. Maintenant, avec la pression de Donald Trump, peut-être que pour une fois, il pourrait accepter, alors que l'Ukraine a accepté un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours déjà depuis le mois de mars. Donc
c'est ça.
La balle est vraiment dans le camp des Russes.
Selon vous, c'est Donald Trump qui pousse la Russie à multiplier cette annonce ou bien il y a une volonté de tactique militaire comme ce que vous nous expliquiez il y a quelques instants ?
La dernière fois, quand ils ont obtenu un cessez-le-feu, quand ils ont déclaré un cessez-le-feu, les Ukrainiens l'ont respecté et ça a permis aux Russes de réorganiser le front en assurant la logistique, en exfiltrant des hommes, en allant chercher des cadavres, etc. Donc il y a certainement un intérêt militaire pour eux puisqu'ils ne proposent que ce qui est à leur propre avantage. Et si jamais les Ukrainiens violaient ce cessez-le-feu, ils accuseraient les Ukrainiens de le faire, alors que d'habitude c'est eux qui ne respectent pas leurs propres promesses. Mais oui, je pense que Donald Trump, c'est lui qui a évidemment la possibilité, mais il n'y a qu'une seule chose qui marche avec la Russie, c'est leur mettre la pression. Tant qu'aujourd'hui on continuera à discuter d'éventuellement céder la Crimée, puis d'autres régions, et puis de reconnaître, etc., la Russie ne fait que gagner dans les annonces. Sur le terrain, elle est complètement bloquée, mais dès qu'elle négocie, elle est en position de force face aux États-Unis qui se montrent plutôt faibles.
Alors justement, sur le terrain, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Puisque Vladimir Poutine a salué ce matin les soldats russes qui ont repris, selon lui, la région de Koursk, donc repoussé les militaires ukrainiens qui s'y trouvaient, eux, depuis le mois d'août dernier. On avait vu que ça avait déjà beaucoup bougé ces dernières semaines. Où est-ce qu'en est la Russie, militairement parlant ?
La Russie, elle progresse quasiment plus. Il faut imaginer, sur la totalité de l'année 2024, elle a progressé de 4000 km², donc c'est négligeable, c'est même pas un département français, et elle a perdu dans le même temps 400 000 hommes. Sur le terrain, on voit que l'équilibre militaire est plus aussi à son avantage, c'est-à-dire que, par exemple, il y a quasiment un équilibre sur l'artillerie, il y a une domination dans le domaine des drones, il y a de moins en moins de véhicules blindés qui sont utilisés dans les offensives, mais la Russie, elle continue à essayer de pousser, et elle continue à accepter et à tolérer des pertes qui sont absolument colossales, et c'est aujourd'hui sa seule force, c'est sa capacité à subir des milliers de pertes par jour, comme les jours où ils font des offensives, jusqu'à ce que, on ne sait pas exactement ce qu'ils attendent, puisque l'Ukraine n'est pas à 2 doigts de s'effondrer, contrairement à ce qu'ils prétendent tous les jours.
Alors, on va pouvoir s'intéresser au pendant ukrainien. La région de Koursk, c'était vraiment un gros levier de négociation pour l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il lui reste sur le terrain et donc pour mener des négociations maintenant qu'elle a perdu cette occupation militaire dans la région russe de Koursk ?
Le but des Ukrainiens était de tenir simplement jusqu'au mois de novembre, c'est-à-dire avec l'élection de Trump, puis ensuite son entrée en fonction. Donc déjà, c'est un succès absolument gigantesque d'avoir tenu 9 mois sur le territoire russe. Et il y a une autre petite enclave qui est dans la région de Belgorod, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Russie nous prouve qu'elle est incapable de reprendre par les armes même son propre territoire. Et d'ailleurs, il y a aussi aujourd'hui l'officialisation de la présence des soldats nord-coréens. Et évidemment, tous les propagandistes russes avaient nié cette réalité qui est maintenant officialisée par la Russie. Même. Donc l'Ukraine, qu'est-ce qui lui reste ? Finalement, elle a la pression maritime, elle a la capacité de frapper dans la grande profondeur, et on le voit régulièrement avec des dépôts de munitions. 105 000 tonnes de munitions qui ont explosé la semaine dernière à 65 km de Moscou. Des usines d'armement qui sont frappées pour la 4e fois en 2 mois et que les Russes n'arrivent pas à protéger. Donc là, l'Ukraine, elle peut continuer à mettre une pression en tapant sur l'économie russe, sur sa capacité à conduire la guerre sur le long terme, et puis sur le front, simplement, c'est le fait de tenir. L'Ukraine, elle n'est pas en mesure de reconquérir son propre territoire, donc le but, c'est de fatiguer les Russes.
Et des opérations comme celle qu'on a vue la semaine dernière, l'assassinat d'un général russe en pleine rue, juste à côté de Moscou, ça, c'est quelque chose qui peut avoir aussi un effet, selon vous ?
Pas directement. Il y a tellement de généraux qu'au final, oui, celui-là était particulièrement intéressant parce qu'il faisait partie du centre de planification et de coordination des opérations militaires. Et on est vraiment sur, en plus, des opérations ciblées, efficaces, réussies, avec des cibles légitimes qui, encore une fois, sont conformes au droit international dans le cadre d'une guerre. Donc les Ukrainiens, à partir du moment où ils ont la possibilité de faire ces choses-là, ils vont les faire. De la même manière, ils avaient attaqué également, ils avaient tué le général qui était en charge de la planification et qui était responsable d'avoir bombardé l'hôpital pour enfants cancéreux de Kiev. Donc on est, oui, ça, ils vont continuer à le faire, mais c'est pas réellement ça qui va jouer sur un équilibre militaire. Par contre, ça implique que les Russes doivent retirer des troupes du front pour mieux protéger leurs arrières et leur capitale.
Donc on a, si je vous suis bien, une guerre qui coûte extrêmement cher à la
Oui,
Russie, à la
absolument.
fois en hommes, en matériel et puis en argent, puisque l'économie est très, très perturbée. On ne l'a pas mentionné, mais ça coûte très cher à Moscou et au pouvoir de Vladimir Poutine. On a l'Ukraine qui peut tenir, mais dont on voit qu'elle est aussi en difficulté. Combien de temps est-ce que les deux camps peuvent encore continuer ce conflit avant d'être obligés de se parler et de trouver, de s'accorder sur des concessions et un accord de paix?
Alors, l'Ukraine aujourd'hui, elle est prête à faire des accords de cessez-le-feu et de négociations demain. C'est ça, c'est pas une question. La question, c'est quand est-ce que la Russie va être suffisamment fatiguée pour arrêter de tenter, parce qu'aujourd'hui, il y a Lavrov l'a encore exprimé aujourd'hui, le bon, porte-parole l'a répété. Ils sont dans un objectif de conquête totale des quatre oblasts qu'ils souhaitent annexer. Or, ils n'en possèdent même pas un seul. C'est-à-dire que toutes ces zones de Louhansk, Donetsk, il leur manque encore un tiers de l'oblast.
Donc
Et à la
ça, ce sont
vitesse
les
actuelle, il
régions
leur
de
faut.
l'Est dans
Ce sont
lesquelles
les
il y a
régions.
des combats depuis l'annexion de la Crimée en 2014 et où se déroulent la plupart des combats en cours là depuis le
Exactement.
début de la guerre de 2022.
Et au bout de 3 ans, ils n'ont toujours pas été capables de conquérir ne serait-ce que le Donbass, même le simple oblast de Donetsk. Donc on sait très bien qu'à la vitesse actuelle, il leur faut encore 2, 3 ans avant d'obtenir ça, mais on sait très bien que économiquement et militairement, ils sont exsangues. Donc la vraie question, c'est quand est-ce que les Russes seront fatigués? Quand est-ce qu'ils n'auront plus de ressources pour continuer? Parce que les Ukrainiens, ils sont prêts à avoir un cessez-le-feu demain. Et je reviens du front, j'étais à une dizaine de jours dans les tranchées, justement dans cette zone autour de Sloviansk. Et là-bas, très clairement, ils sont sereins. Militairement, j'ai jamais vu les Ukrainiens aussi sereins depuis au moins l'été 2023. Ils ne sont pas dans une situation de grande souffrance comme on pouvait l'avoir, par exemple, il y a un an, quand il y avait le matériel militaire américain qui avait disparu. Ils produisent plus d'armes eux-mêmes, ils ont plus de soutien étranger. Donc moi, à mon avis, ce sera l'économie russe qui fera arrêter cette guerre et j'espère que ce sera évidemment en 2025.
Vous dites que vous êtes rendu sur le front récemment. Est-ce que les militaires sur place reçoivent encore du matériel? On a beaucoup parlé de menaces américaines, de suspension de livraison de matériel et d'armement. Est-ce que sur le terrain, la situation est la même qu'il y a quelques mois, qu'avant l'élection de Donald Trump?
Elle est la même, je dirais même qu'elle est meilleure. Le flux américain, il s'était un petit peu tari à un moment, mais en fait, les Américains, non seulement ils ont rétabli, mais ils ont fait un rattrapage. C'est-à-dire qu'au moment où il y avait un ralentissement américain avec Donald Trump qui voulait mettre la pression sur l'Ukraine, aujourd'hui, ils en envoient plus pour rattraper le moment où ils avaient moins donné. Mais en dehors de ça, il y a d'autres alliés qui sont de plus en plus présents. Il y a une cinquantaine de chars australiens qui vont arriver. Il y a le Qatar, il y a l'Égypte, il y a des pays auxquels on ne pensait pas, la Serbie, l'Azerbaïdjan, qui aident beaucoup plus l'Ukraine. Et l'Europe, ça a monté en puissance industrielle, c'est une réalité. Et à côté de tous ces pays qui aident l'Ukraine de plus en plus fort, l'Ukraine elle-même, elle produit désormais la moitié de ce qu'elle consomme en termes de matériel militaire, c'est-à-dire des blindés et aussi de munitions. Donc globalement, c'est pour ça que ce rééquilibrage se fait au profit du défenseur. L'Ukraine qui se défend a de plus en plus les moyens de se défendre, mais évidemment toujours pas suffisamment pour infliger des pertes suffisamment lourdes à la Russie pour qu'elle s'effondre militairement.
Et qu'est-ce qu'il faudrait alors pour que la Russie, vous nous disiez que la Russie était en difficulté et qu'on attendait de voir le moment où en fait le régime allait craquer, allait lâcher. On a une idée, une estimation de temps à partir duquel un délai à partir duquel la Russie sera obligée de parler?
Alors, les optimistes, ils disent qu'en observant avec les photos satellites la vitesse à laquelle les stocks soviétiques sont en train de se vider, ce serait 2025, période à laquelle ils n'ont plus la possibilité de continuer à tenter leurs assauts, parce que déjà, ils sont pas très efficaces, mais s'il y a même plus de blindés, plus de la moitié de ce qui est utilisé dans les blindés aujourd'hui, ce sont des véhicules civils. Et on va aller du bus scolaire jusqu'à la trottinette, prouvé par l'image. Donc, on estime que militairement, d'ici la fin de l'année, ça va vraiment être de plus en plus difficile. Économiquement, ce serait probablement fin 2025 et certains disent 2026-2027 s'ils arrivent à contourner les sanctions. Et la plus grande catastrophe, c'est évidemment que les États-Unis lèvent les sanctions, parce que dans ce cas-là, ça redonne une bouffée d'air économique à la Russie, mais elle aurait aussi accès aux technologies qui lui manquent. Je rappelle que dans un missile russe, il y a 31 composants américains qu'aujourd'hui, ils sont obligés d'acheter de manière détournée, beaucoup plus cher, dans des produits finis qu'ils doivent démonter ensuite, plutôt que de pouvoir les acheter en direct.
Merci beaucoup Xavier Tittelmann
Merci à vous.
D'avoir été en ligne avec nous. Ancien aviateur militaire, vous êtes consultant en aéronautique et en défense.